FM 93.
Ségal, le midi, avec Myriam Ségal, FM 93.
Ici Myriam Ségal, virage vert de la CAQ, mais mollo, on est dans le vert très, 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 très pâle. Des condos de luxe pour Pitou et Minou, et pourquoi pas? Une autre histoire sombre de DPJ, un enfant de 3 ans qui traverse seul un boulevard. Et à la météo, de quoi aura l'air l'été? Donnera-t-il raison à Clémence Desrochers? Chez nous, l'été, c'est un événement, mais maudite part, des mouilles tout le temps.
FM 93.
OFM 93.
Ségal, le midi, avec Myriam Ségal.
FM 93.
Pas de Jeff, pas de Paul, pas de millénial aujourd'hui. Je suis tout seul. Ils sont pas tough, hein? Ça travaille 7-8 jours en ligne, puis hop, ça a besoin d'une journée de congé. C'est pas tough. Bon, mais ça fait rien. On va passer tout le midi ensemble, vous et moi. OK, OK, j'ai des milléniaux. Là, il y en a un qui vient d'ouvrir la porte pour protester. Il y a évidemment Benjamin et Kevin qui vont quand même m'escorter tout au long de l'émission. Merci d'être là quand même. Je me sentais un peu rejet aujourd'hui, je dois vous avouer. Comme l'impression que mes co-animateurs de milléniaux, ils ont besoin de respirer quand ils ont fait un bout avec moi. je disais vert mollo, vert tendre pour la CAQ, là. On va y revenir tantôt avec notamment avec Luc Lavoie, mais j'ai ouvert les palettes de couleurs, tu sais, les noms de palettes de couleurs, là. Liqueur de menthe, Vallée d'Irlande, Granny Smith, vert opalescent, Parc La Fontaine. Il y en a un vert qui s'appelle Parc La Fontaine. D'après moi, ça doit être ça. Ça doit être parce que la CAQ veut rejoindre la verdure montréalaise. On y reviendra, mais j'ai pas haï ça, moi, le discours de Legault là-dessus. J'ai trouvé un peu flagorneur notre ami Dominique Champagne qui se présente à la CAQ avec sa carte de membre, avec un macaron « J'aime mon premier ministre ». C'est essayer d'avoir le premier ministre par les sentiments. Tiens, il y a quelqu'un qui me demande « Est-ce qu'il va y avoir des caméras pour voir nos animaux se baigner dans le condo de luxe pour Pitou Minou ?» On va le demander à une des copropriétaires tantôt. Elle va nous parler, elle va nous expliquer son projet. Mais pourquoi pas? J'imagine qu'il doit y avoir, effectivement, dans un condo de luxe, des caméras qui permettent de surveiller ce que fait Pitou pendant que papa et maman, puisque c'est comme ça que se considèrent les propriétaires d'animaux, sont ailleurs obligés de vaquer à des occupations importantes. En fin de semaine, on aurait dit qu'on avait un palmarès de fous, hein? Il y a eu l'histoire de la policière qui a tiré sur un gars qui a capoté parce qu'il avait eu une contravention de stationnement, qui est allé chercher un couteau, une poêle, tirer la poêle à la garde. Ouh! On a de la misère à gérer les émotions. Puis l'autre, c'est la mosquée de Québec, et ça m'inquiète. Honnêtement, là, je sais bien que le chauffeur de taxi qui est membre de la communauté musulmane de Québec et qui a eu une altercation avec cette espèce de délirant qui est allé hurler après les musulmans en fin de semaine, dit que c'est un gars qui a visiblement plus besoin d'aide psychologique que d'être en prison. Mais la répétition de ce genre de choses m'inquiète. Les espèces de délires anti-musulmans que l'on lit de temps en temps, je peux pas penser que c'est pas le symptôme de quelque chose quand même d'inquiétant. Les musulmans qui pratiquent à la mosquée de Québec sont dans leur lieu de culte. On peut-tu leur foutre la paix? On peut-tu leur foutre la paix? Et non, les musulmans ne sont pas tous des immigrants. Certains sont nés ici. Donc, ce sont pas des immigrants qui nous envahissent. Ils ont le droit de pratiquer leur religion de la même manière que les témoins de Jéhovah ont le droit de pratiquer leur religion. De la même manière que les protestants ont le droit de pratiquer. Regarde, tant que la religion, quelle qu'elle soit catholique, protestante, sikh, bouddhiste, musulmane, peu importe, tant que la religion ne vient pas interférer dans la vie civile, j'ai aucun problème à ce qu'ils pratiquent la religion qu'ils veulent. On peut-tu leur foutre la paix? Là, l'espèce d'excité, il est allé hurler à la porte, « Donnez, montrez-moi vos passeports! » Youhou! Alors, je sais bien que le jeune homme qui est intervenu, qui semble être un chauffeur de taxi, qui a voulu rester anonyme et qui a eu une petite altercation. Il n'a pas été blessé, là. Il y a eu un coup que le cinglé a voulu porter au visage, là. Puis il a raté son coup, la calotte a revolé. Bon, et heureusement, la police a appelé. Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est qu'on est en train de persécuter ces gens-là. Il y a un tireur fou qui est rentré dans leur mosquée puis qui a tiré sur eux autres. On peut-tu penser qu'ils sont encore traumatisés? Puis que d'aller crier à leur porte, ça a quelque chose d'éminemment cruel. La police n'a pas l'air de considérer ça comme un crime haineux. Mais c'est cruel en maudit, parce que c'est de quoi ressusciter les pires cauchemars. Alors, si c'est vrai que c'est un cinglé, enfermez-le, laissez-le pas en liberté. Si c'est juste un excité qui n'est pas capable de supporter l'information sur la religion, là, il va peut-être falloir donner un exemple. Comme on l'a donné avec Pierre Dion l'autre jour, l'espèce de troll qui a fini par être condamné. On ne sait pas encore à quoi. Mais il va falloir que ces affaires-là, ça arrête. Et je disais l'autre jour, le droit à la haine n'existe pas. En société, tu as le droit de ne pas aimer, tu as le droit de ne pas apprécier, tu as le droit de discuter, tu as le droit de contester. Tu n'as pas le droit d'haïr les autres, juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec la religion catholique, ils ne viennent pas manifester devant devant les églises. Pourtant, il y a quelques intégristes, j'en ai croisé un l'autre jour, un curé en soutane avec un col romain. Je n'avais pas vu ça depuis longtemps, je me suis demandé si c'était l'Halloween. Puis, voulez-vous, en quoi ça nous dérange? Tant qu'il n'est pas juge, tant qu'il n'est pas professeur, tant qu'il n'est pas en train de faire du prosélytisme dans les fonctions qu'on lui donne, tant qu'il n'interfère pas dans le fond avec la vie civile, on peut-tu sacrer la paix aux gens avec leur religion? C'est quand ça interfère? Il y a quelqu'un qui me dit « c'est un cas isolé de dérapage, comme le même dérapage du musulman qui a fait un fou de lui à la télé en faisant croire aux gens qu'il s'ouvrait les veines devant les caméras. Des caves, il y en a des deux côtés, donnez-nous donc des nouvelles du chauffeur de taxi. » Puis, le chauffeur de taxi, qui est en fait un propriétaire de plusieurs permis de taxi. Mais là, ça n'a rien à voir avec sa religion, là. C'est un chauffeur de taxi qui était ulcéré et qui a fait mine de se suicider à la TV. Et là, oui, il a besoin de se soigner, effectivement. Oui, c'est un dérapage, mais quand les dérapages se multiplient, ça m'inquiète. Pierre Dion, c'est un dérapage. Le cas de la fin de semaine, c'est un dérapage. Et je vous dis, là, quand on parle de musulmans ou d'islam, je suis toujours surprise de certains courriels que je reçois de gens qui lisent le Coran puis qui me disent qu'ils veulent tous nous exterminer. Si vous lisez la Bible, il y a des horreurs dans la Bible. Il y a des horreurs dans le Coran. Il y a des horreurs dans tous les livres millénaires. Parce que les mentalités ont évolué. Heureusement, l'être humain évolue. Alors, on peut pas prendre ça à la légère. J'espère que c'est un fou. J'espère que c'est un dérapage isolé. J'espère que le jeune homme qui est intervenu et qu'il y a une altercation avec lui a raison, puis que c'est quelqu'un qui a plus besoin d'aide psychologique. Maintenant, ce sera assez rassurant quand même que ceux qui ont besoin d'aide psychologique l'aient, puis se retrouvent pas dans le trafic à tout bout de champ. Ça c'est l'autre bout qui m'emmerde un peu. C'est qu'on a l'impression que les fous sont de plus en plus en liberté. Et que quand ils ont besoin d'aide, on les stabilise, puis ensuite on les renvoie. Pour éliminer ces incidents de capotés, il faut mettre en taule ceux qui les excitent, comme Pierre Dion. Pas de problème avec ça. Autre sujet, ça m'a aussi intrigué de voir que la Ville de Québec, on avait parlé l'autre jour des taxes municipales à la Ville de Québec, les taxes des commerçants, qui sont délirantes. Je vous ai dit, là, je vous ai donné l'exemple d'un espace commercial, 960 pieds carrés, pas de stationnement, des parcomètres, puis bon. Et c'est 8 000 $ de taxes. Les taxes commerciales sont délirantes. Là, ce qu'on apprend en plus, c'est que sur la Grande Allée, les commerçants qui empiètent sur le trottoir pour faire une terrasse payent deux fois plus cher que dans les autres zones commerciales. En fait, c'est le Journal de Québec qui a découvert qu'il paye 715 $ du mètre carré, alors que sur l'avenue Cartier, le Petit Champlain, la rue Saint-Jean et le Vieux-Port, il paye entre 321 et 434 $. Et là, les commerçants de la Grande Allée disent « Êtes-vous fous? 715 $ du mètre carré. » La Ville de Québec a une explication qui me semble totalement loufoque. Mais je vous la donne quand même, peut-être que vous allez y trouver une logique. La Ville dit « On calcule ce que ça va coûter par année. » Puis vu que sur la Grande Allée, ils peuvent opérer juste 2 mois, ben ça coûte plus cher du mètre carré parce qu'ils opèrent juste 2 mois. Sur Cartier, par exemple, ils peuvent opérer 6 mois, ben ça leur coûte moins cher parce qu'ils opèrent 6 mois. L'idée, c'est que le bilan, ce soit à peu près 1500 $. Donc, qu'un commerçant qui empiète sur le trottoir paye 1500 $ du mètre carré, peu importe que ce soit pour 2 mois ou pour 6 mois. Ça me paraît absurde parce que sur la Grande Allée, ça veut dire qu'ils n'ont que 2 mois pour éponger les coûts. Tandis que sur Cartier, ils ont 6 mois. Je sais bien que 6 mois, là, il fait frais en maudit, puis il faut être de bonne humeur et crinqué à certaines journées pour aller sur les terrasses. Mais il y a quelque chose de délirant à penser que pour un même usage, on paye pas le même prix. Tu sais, s'ils ont seulement 2 mois, ça veut dire que quand ils vont vous servir votre hamburger, votre poutine, peu importe, votre bière, ils vont devoir aller chercher cet argent-là dans vos poches parce qu'ils ont juste 2 mois. Puis là-dessus, ils vont en mouiller à peu près 40. Non, j'exagère. Okay? Pendant que sur Cartier, peut-être que les belles journées du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, ils vont pouvoir faire de l'argent un peu plus souvent. Mais ils vont payer moins cher leur mètre carré. Il y a quelque chose de complètement... Je la comprends pas, l'argument. Je sais qu'on nous dit c'est par souci d'équité. Un commerçant qui prend du trottoir, faut que ce soit le même prix pour tout le monde, peu importe le temps qu'il le fait. Mais non, pas peu importe le temps qu'il le fait, puisque il n'a que ces journées-là. Si une journée qui fait beau, il va servir 3 repas. S'il y a 30 jours, il va servir 90 repas sur son mètre carré. S'il y a 6 mois, il y a des chances d'avoir 60 jours et donc d'avoir 120 repas qu'il peut vendre, 180 repas qu'il peut vendre. Ça fait qu'il y a quelque chose de complètement fou. Sur la Grande Allée, ils ont les grands événements aussi, carnaval, jour de l'an, l'été, festival d'été. Oui, mais ça justifie pas que le mètre carré soit plus cher qu'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas l'explication que donne la ville. Puis le trottoir sur la Grande Allée, il est pas fait en marbre, que je sache. Même s'il était fait en marbre, ce serait plus solide, ça briserait encore moins. J'arrive pas à comprendre cette logique-là, sinon que... J'ai comme l'impression qu'à la ville, il y a quelqu'un qui s'est dit, commerçant, c'est pas organisé en gang, ça a pas les moyens de faire du lobby. Eux autres, là, tu peux les assommer tant que tu veux. Ils vont toujours cracher. Ils vont toujours payer. Sur la Grande Allée, ne pas oublier que l'Institut Robert Giffard a vidé ses murs il y a une 20aine d'années. Ça, c'est quand on parle des... il nous avait dit, lors de la désinstitutionnalisation, que ce n'était pas une mesure d'économie, mais qu'on allait mieux encadrer ces gens-là dans la société, qu'ils allaient avoir des appartements où on allait pouvoir les héberger. Depuis ce temps-là, d'ailleurs, remarquez bien que les itinérants, ça explose. Le nombre d'itinérants explose. Fait qu'on doit pas avoir réussi si bien que ça à les héberger et à les protéger contre eux-mêmes. Il y a la réalité d'un courant politique qui nous est hostile et qui instrumentalise la religion musulmane. J'admets que dans la religion musulmane, il y a des extrémistes islamistes. À ma connaissance, ceux qui fréquentent la Grande Mosquée de Québec sont des gens pacifiques qui font partie de la vie économique de notre ville. On peut-tu leur foutre la paix? Est-ce qu'on peut leur foutre la paix? Pas beaucoup de terrasses au carnaval. Bon, il y en a quelques-unes. Mais ils empiètent pas les terrasses au carnaval, ils empiètent pas sur le trottoir. Faut comprendre que la mesure de la ville, c'est pour la terrasse qui empiète sur le trottoir. Donc, qui empiète sur la voie publique. L'hiver, là, il y a pas de terrasse qui empiète sur la voie publique. On n'est pas assez nombreux à aimer ça, prendre un verre par moins 20 dehors. L'autre sujet que je voulais toucher avec vous, ce sont les grands consommateurs des urgences d'hôpitaux responsables de l'engorgement des urgences. Puis là, on fait toute une histoire avec une doctorante qui a examiné ce qui est arrivé avec 30 patients. 30 patients de 18 ans et plus qui ont fait chacun plus de 10 visites à l'urgence. Et elle s'est demandé, mais pourquoi ils vont à l'urgence alors que y a pas de... leurs cas sont pas urgents. Elle s'est demandé, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que il y a pas plus d'hommes que de femmes? Il y a pas plus de pauvres que de riches? Il y a quelques indices de pauvreté un peu plus fréquents, etc. Mais le problème, c'est que ça engorge pas vraiment les urgences, ces gens-là. Ça engorge le triage. Mais ça engorge pas les urgences. Quand on vous parle des urgences engorgées, là, ce sont des gens qui sont admis sur civière, qui ont besoin d'être hospitalisés, puis qui sont dans le corridor. Et qui sont sur civière. Les patients ambulatoires qui y vont pour un pouce cassé, une foulure, un morceau de vitre dans le pied ou un crâne ouvert. Moi, j'ai été souvent à l'urgence avec mes fistons qui s'ouvraient le crâne un peu trop souvent à mon goût, là. Ces urgences-là, elles ne comptent pas dans les statistiques. Quand on vous parle des urgences engorgées, là, puis des 48 heures, là, c'est pas les patients ambulatoires. C'est toujours les gens qui sont hospitalisés, qu'on a mis sur des civières et qu'on voudrait envoyer dans un lit d'hôpital, mais qu'on peut pas envoyer dans un lit d'hôpital parce qu'il y a des lits qui seront soit fermés, soit parce qu'il y a pas de place. Alors, ça a rien à voir avec l'engorgement des urgences. Ça a tout à voir avec les patients ambulatoires qui disent, ben maudit, j'arrive pas à voir quelqu'un pour le bobo que j'ai, m'en y aller. Je vais aller à l'urgence, je vais aller passer 12 heures à l'urgence, mais je vais régler mon problème. Alors, il y a Bonjour Santé, là, qui est un guichet où tu peux prendre des rendez-vous. Il y a, aller sur un site, là, le gamo, je me souviens plus. En tout cas, le guichet pour les patients orphelins, là. Tu peux aller là pour le GACO pour la clientèle orpheline, le guichet pour la clientèle orpheline. Tu peux aller là, mais moi la dernière fois que j'étais là pour essayer de prendre un rendez-vous, j'ai fait la liste des 8 cliniques puis j'ai pas été capable d'avoir un rendez-vous. Ça se peut-tu qu'ils vont à l'urgence parce que l'accès est difficile? Puis parce que même si on nous dit oui, il y a maintenant des accès super cliniques, super ci, super ça là. En réalité, on les trouve pas ces accès-là. Moi, pour une, là, j'ai besoin de voir un petit doc pour faire une petite vérification. Ça fait 3 mois que je traîne ça. C'est pas grave, j'en mourrai pas. À un moment donné, je vais me tanner, mais me présenter quelque part, par exemple. Alors, j'irai pas 10 fois dans la même année, parce que quand tu présentes 10 fois dans la même année à l'urgence, probablement que tu as une certaine insécurité, probablement que tu as de la solitude. La scientifique qui a fait l'étude recommande d'ailleurs que quand ces gens-là se présentent à l'urgence, on les oriente vers quelque part où on va les aider pour de vrai, à la place de leur dire « Assoyez-vous sur la petite chaise droite puis attendez 12 heures. » Je suis en train de faire ma pelouse, c'est Mike qui m'écrit. « Je suis en train de faire ma pelouse en écoutant votre émission. Je pense à Myriam. Je vais dire à celui qui entretient mon gazon de mettre moins d'engrais. Maudit que j'haïs ça. » Je vous le dis, la pelouse, là, c'est l'ennemi de votre bien-être l'été. Non seulement vous devriez mettre moins d'engrais, mais vous devriez essayer d'éviter qu'elle pousse. Arrosez-la pas, OK? Arrosez-la pas. Laissez-la aller. De toute façon, la nature fait très bien sa job. Laissez-la aller, votre pelouse. Vous allez voir le plaisir que vous aurez à prendre votre verre de vin en contemplant vos pissenlits sera bien supérieur au plaisir que vous aurez à passer.